France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Emmanuel Macron a reçu hier soir une soixantaine d'intellectuels à l'Élysée, une invitation qui s'inscrit dans le grand débat national. Le président voulait les consulter avant d'adresser sa réponse à la crise des Gilets jaunes. Ça s'est terminé très tard. Je vous remercie vraiment de vous être levé. La nuit était courte pour vous, Agathe Cagé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste. Vous avez notamment également travaillé avec Najat Vallaud-Belkacem au ministère d'Éducation, avec Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle. Vous dirigez un cabinet de conseil et vous étiez sur la liste des convives hier soir. Est-ce que vous avez l'impression que ça a servi à quelque chose ?
Je pense déjà que ça a dit une chose, ça a dit la volonté d'un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, de revenir publiquement participer au débat des idées, au débat public, et ça me semble quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on avait un peu perdu la voix de ces intellectuels dans le débat public, alors qu'il y a des énormes sujets sur lesquels on doit avancer en France, que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la recherche, le logement, la politique migratoire, et enfin on avait des personne qui prenait publiquement, en toute transparence, filmé par les caméras, la parole dans le cadre de ce débat. Donc pour moi, ça a servi à quelque chose.
Je vous interromps juste, cette voix, elle s'était perdue du fait d'Emmanuel Macron ces derniers temps ?
Non, cette voix, elle s'est perdue depuis assez longtemps, c'est-à-dire qu'on a peu de voix d'intellectuels qui s'expriment sur des sujets pourtant majeurs et qui s'expriment en plus collectivement, on l'a encore moins. Donc c'était une manière de renouer finalement avec ce débat. Là, on a des personnalités qui sont venues pour échanger, alors sur un format qui a en effet duré un peu plus de 8 heures avec le président de la République, sans avoir rien à y gagner personnellement. Vous aviez un format qui vous permettait de parler 2 minutes uniquement.
2 minutes pour résumer sa pensée, c'est difficile, non ?
C'est assez difficile. Le président répondait, vous n'aviez pas la possibilité de répondre vous-même au président, donc ça limite aussi la profondeur de l'échange avec des personnalités. Vous aviez les prix Nobel français, vous aviez Serge Haroche, Monique Ortos-Perber, Daniel Cohen, qui ont une visibilité médiatique, une reconnaissance académique qui font qu'ils n'ont pas besoin d'aller échanger avec le président de la République pour s'affirmer dans le débat public. Donc le fait qu'ils aient accepté de le faire, ça dit aussi, en tout cas j'espère que ça dit une volonté de jouer un rôle plus important, et il y a un rôle important des chercheurs à jouer dans la construction des politiques publiques aujourd'hui et demain.
Et de ces 8 heures, vous retenez quoi ? Vous avez entendu des choses intéressantes ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
De ces 8 heures, si je devais retenir quelques interventions, je citerais sans doute Irène Théry, quoi. Elle a parlé de la nécessité de refaire valeur. Il y a un certain nombre de débats éthiques qui sont sur la table en ce moment, dont on repousse pour des raisons politiques la prise de décision. Elle a dit « Attention, prenons les décisions maintenant, vous êtes en train de refracturer la société française qui a connu déjà une grande fracture au moment des débats sur le mariage pour tous. Ne refaites pas la même erreur, vous voyez combien ça peut faire mal à la société française. » Donc sa prise de parole était vraiment forte. Je retiens la prise de parole aussi de Monique Ortos-Perber qui a dit, vous voyez bien qu'il y a une volonté de participation politique des citoyens, donner aux citoyens les moyens de s'exprimer, donner leur les moyens, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, de se réemparer de leur liberté politique. Ça m'a paru extrêmement important. Et puis Daniel Cohen a soulevé une question aussi à mes yeux essentielle, celle de la fiscalité du patrimoine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le débat né des Gilets jaunes ne dit pas uniquement on souhaite moins payer d'impôts, il dit oui, il y a une nécessité d'impôts et de dépenses publiques et d'investissements publics en France, mais attention à qui paye, à qui on fait payer, et sans doute regarder du côté de la taxation des plus hauts patrimoines plutôt que de la taxation en impôts indirects de ceux qui ont les plus faibles revenus ou de la taxation des classes moyennes.
Et vous, quel a été votre message au président ?
Moi, mon message au président de la République, c'est... Aujourd'hui, vous voyez bien que la manière dont on construit les politiques ne fonctionne pas, donc acceptons de voir les choses différemment. Si, quand on parle d'éducation, de recherche, de santé, de logement, on nous dit directement, attention, c'est la dépense publique, donc on ne peut rien faire, je pense qu'on passe à côté du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que c'est de l'investissement public qu'on met sur l'avenir des enfants, qu'on met sur la qualité de la santé, donc sans doute... Faut-il accepter d'aller aussi vers cette voie sans la rejeter a priori, quand on a parlé de l'expérimentation du revenu universel d'existence qui avait été proposé par 18 départements et qui était une des mesures phares, le revenu universel d'existence de la campagne de Benoît Hamon, que le président de la République dit « je ne pouvais pas accepter cette expérimentation parce que en étant élu président de la République, finalement les Français avaient fait un autre choix ». J'avais envie de lui dire « mais attention ». C'était une expérimentation construite dans les départements, des centaines de citoyens s'étaient mobilisés, vous aviez un cadre d'évaluation de cette expérimentation, ça permettait de voir des choses, ne la rejetez pas a priori. Donc mon message était, monsieur le président de la République, sans doute faut-il penser la construction des politiques différemment, en associant ce qu'on faisait hier soir avec le grand débat, les chercheurs, en associant les citoyens, en associant le monde associatif. Vous pouvez pas faire de politique du logement aujourd'hui sans prendre avec vous la Fondation Abbé Pierre pour essayer d'avancer, parce que vous voyez bien que les politiques publiques, telles qu'on les construit aujourd'hui, n'ont pas l'effet que les citoyens attendent.
Et vous l'avez senti réceptif à tous ces messages, à ces 64 messages envoyés hier soir, le président ?
Je l'ai senti amusé, intéressé par l'exercice. Amusé au sens où c'est un exercice qui lui plaît. Il aime bien l'exercice du débat qui se prolonge, qui s'éternise, dans lequel il peut montrer sa capacité. Il a une capacité à répondre sur des sujets qui vont de le financement de la recherche jusqu'à la situation de la psychanalyse et de la médecine.
Les sujets étaient balayés large. Voilà.
Il a la capacité à conduire cet exercice, et c'est un exercice qui visiblement lui plaît. La limite de l'exercice, c'est quand vous n'avez pas la possibilité de lui apporter la contradiction. C'est-à-dire que vous parlez de minutes, le président de la République vous répond, vous avez dit blanc, il vous a dit noir. Peut-être que la situation, en effet, était réellement blanc au départ, donc vous n'avez pas la possibilité de lui dire, non, là, monsieur le président de la République, certes, vous êtes en train de défendre un certain nombre de visions et votre programme politique, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ce défaut de contradiction, c'était un peu la limite de l'échange. C'est-à-dire que quand vous échangez avec des chercheurs, comme quand vous échangez avec des élus locaux, on n'est pas seulement là pour exposer au président des problèmes, c'est aussi pour lui mettre le doigt sur un certain nombre de constats, faire un certain nombre de propositions, avancer des solutions. Et ça nécessite des échanges un tout petit peu plus longs, et ça nécessite une véritable partie de ping-pong, et pas seulement un service rattrapé par un revers, et puis vous voyez la balle passer, vous pouvez pas.
C'est ça. Un peu trop.
Ou alors il y avait trop de sujets. En même temps, si on avait été moins nombreux, sans doute qu'un certain nombre de personnalités se seraient offusquées de ne pas avoir été conviées.
Pourquoi les intellectuels seraient mieux diagnostiqués cette crise que connaît le pays, puisque c'est le point de départ de tout ça, c'est la crise des Gilets jaunes?
Je ne sais pas s'ils savent mieux la diagnostiquer que d'autres. Je pense qu'ils peuvent apporter un diagnostic qui est important par rapport au diagnostic global qu'on peut construire. Il y a un diagnostic citoyen qui est en train d'être apporté, qui est essentiel. Ça a commencé sur les ronds-points. C'est un diagnostic citoyen, les ronds-points, de la crise du pouvoir d'achat. C'est un sujet qui était totalement sorti des radars d'un grand nombre de responsables politiques. Donc il y a un diagnostic qui a été apporté par les citoyens. Il y a un diagnostic qui est apporté par le monde associatif. Il y a un diagnostic, on peut le critiquer ou pas, qui est apporté par un certain nombre de partis politiques. Et les chercheurs ont une capacité aussi, par leur connaissance de la société, ses évolutions, les sociologues, les économistes, les historiens, les ethnologues ont aussi une connaissances et peuvent apporter leur pierre à ce débat, comme les élus locaux aussi une connaissance. Donc il n'y a pas chez les chercheurs une capacité à produire un meilleur diagnostic que d'autres, il y a chez les chercheurs une capacité à apporter un diagnostic intéressant, complémentaire, dont il faut savoir se saisir. Je pense que la situation aujourd'hui est assez compliquée pour qu'on exclue aucun apport, ni de constat, ni de solution.
L'objectif donc ultime pour vous, c'est de faire tomber les murs entre intellectuels et politiques. Pour reprendre le titre de votre livre, actuellement ce sont deux mondes un peu trop étanches.
Actuellement, ce sont deux mondes qui sont quand même extrêmement étanches. On a le culte en France, et c'est vraiment dommage, de l'endogamie. Donc vous avez des responsables politiques qui parlent uniquement des responsables politiques et aux fonctionnaires. Vous avez un monde de la recherche qui va assez peu parler aux praticiens des politiques publiques. Et vous avez deux mondes qui parlent en plus assez peu au monde associatif et relativement peu au monde économique.
Tout
est cloisonné. Voilà, on a un culte français des tuyaux d'orgue, alors même qu'on gagne vraiment en efficacité si on met des acteurs différents avec des compétences différentes autour de la table pour avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je pense que ça a été illustré par cette démarche qui s'appelle l'affaire du siècle, qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Vous avez 2 millions de citoyens qui ont signé, vous avez des ONG qui sont mobilisées, des personnalités politiques et médiatiques qui sont mobilisées, des chercheurs et des experts du GIEC qui ont engagé leur expertise scientifique. Et là, vous avez une démarche qui porte, et sans doute on arrivera à faire avancer les choses, parce que vous avez des acteurs différents qui viennent travailler ensemble pour porter quelque chose.
Merci beaucoup, Agathe Cagé, d'être venue ce matin sur France Inter. Vous étiez l'invitée du 5-7.